Remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bienvenue dans Radio Zone Ondes Femmes 93.8, c'est Remue Ménage pour l'instant. Aujourd'hui, nous vous proposons de réécouter un entretien que nous avions eu avec Sakina Sherad à propos des femmes algériennes.
Eh bien, aujourd'hui, nous sommes toutes les ondes femmes, toutes les femmes des ondes réunies dans Remue Ménage, puisque Viviane Guenic est avec moi pour recevoir Sakina. Bonjour Sakina.
Bonjour.
Un petit peu plus près de ton micro, Sakina, s'il te plaît, merci. Et nous avons l'intention de parler cet après-midi des femmes arabes, des femmes maghrébines, et ceci en relation avec toute une de nombreuses activités qu'a organisé Sakina ce samedi 5 mars dernier, en prévision pour fêter le 8 mars, autour des questions, autour des femmes arabes, autour des femmes maghrébines en particulier. Et ce qui nous intéresse, nous, évidemment, c'est aussi ce qui se passe, par exemple, pour les femmes en Algérie, les femmes au Maroc et les femmes ici, les femmes émigrées, avec entre autres la question douloureuse du voile. Voilà ce dont nous allons discuter cet après-midi. Pour vous mettre dans l'atmosphère, eh bien, nous vous proposons une chanson interprétée par Houria Aïchi, c'est comme ça qu'on prononce, Sakina ?
Oui, absolument.
Que nous avons entendu samedi soir, de la musique magnifique, une ambiance magnifique avec les femmes qui venaient danser au son des chansons de Houria. C'était très très beau. Alors on vous en fait profiter un petit peu. Alors, Sakina, qu'est-ce qui t'a donné envie d'organiser ces rencontres de discussion et cette magnifique soirée de musique à l'occasion du 8 mars à Genève? Pourquoi cette volonté de mettre pour nous faire partager à nous, Genevoises, et je suppose aux femmes émigrées du Maghreb, ce 8 mars, toutes ensemble, avoir organisé ces manifestations?
Mais écoute, le 8 mars a toujours été organisé, en fait, dans le cadre du collectif du 14 juin. Cette année, quand on a essayé de penser ce 8 mars, j'ai dit aux copines du collectif, écoutez, cette année, nous, les femmes, le groupe Femmes du Monde Arabe, on veut organiser quelque chose et vous allez vous joindre à nous. Pour une fois, on va essayer, nous, de faire quelque chose. Premièrement, pour montrer nos capacités déjà d'organisation de nous-mêmes. En second lieu, pour rassurer et assurer en fait nos compatriotes d'origine arabe que nous sommes sur le terrain réellement et puis nous arrivons à travailler aussi avec les femmes suisses et les groupes suisses, ça c'est très important. Et pour une fois, c'était intéressant aussi de parler en tant que groupe. Quand la conférence de presse, on a parlé aussi en tant que groupe, toujours avec le collectif, mais nous étions l'une, parce que nous sommes aussi membres du collectif du 14 juin, de montrer que notre présence. Alors pourquoi cette fête et pourquoi centrer sur la lutte des femmes du Maghreb? Parce qu'on remarquera que ces deux dernières années, on parle en Europe et surtout en France des femmes du Maghreb, de l'islam, de toutes ces choses-là, puis on s'est dit... il faudrait qu'on commence aussi un peu à s'exprimer pour qu'on sache aussi ce que pensent les autres femmes, pas seulement ce que pensent les médias occidentaux, mais ce que pense la population qui vit en Europe et notamment la population d'origine maghrébine ou maghrébine. Et on s'est dit, bon, on va essayer de faire quelque chose. Et puis on a fait des réunions avec le collectif et ça a donné cette belle journée où tous les groupes ont donné tous leurs efforts et ça a été une très très belle journée.
Alors, effectivement, il y a cette situation que vous vivez, vous, en Suisse, que d'autres vivent beaucoup, qu'il y a beaucoup en France, de femmes et d'hommes d'origine maghrébine ou qui sont même nés en Suisse, qui sont parfois, qui ont la nationalité du pays où ils vivent, mais qui en même temps sont baignés dans une autre culture, de la culture dont ils proviennent. Et c'est cet difficile agencement entre est-ce que je suis suisse ou est-ce que je suis maghrébin, est-ce que je vis dans cette culture ou dans l'autre, et comment est-ce que le groupe dont tu fais partie, le groupe des femmes arabes, comment ce groupe essaye de se situer dans cette double problématique vers le Maghreb ou vers le pays d'accueil?
Alors effectivement, c'est vrai qu'en tant que citoyenne suisse et en même temps portant une double nationalité de nos pays d'origine, en Suisse, nous n'avons pas cette difficulté parce qu'il n'y a pas cette intolérance ou cette agressivité qu'on sent à l'extérieur comme dans les autres pays européens, notamment la Belgique, l'Allemagne ou la France. Hein. Et puis l'immigration maghrébine n'est pas la même immigration qu'en Europe. L'immigration maghrébine, comme j'ai déjà dit une fois, la première immigration, c'est les étudiantes, il y a 10-15 ans. Puis l'immigration maghrébine, on peut aussi les fonctionnaires internationaux viennent ensuite les hommes surtout mariés à des Suissesses qui sont partis en vacances là-bas ou bien de la région. Et puis vu qu'il y a une émancipation forte et puis que les passeports commencent à se donner quand même dans les pays du Maghreb depuis une dizaine d'années et la volonté, cette nouvelle force de travail des femmes au Maghreb qui, elles aussi, forment une potentialité de travailleuses immigrées qui ont quitté le pays, qui se retrouvent ici qui se marient avec des concitoyens de leur pays d'origine ou bien avec des Européens ou notamment des Suisses. Donc, c'est une nouvelle immigration. Hein. Donc, après l'Espagne, l'Italie, etc., c'est une nouvelle immigration et on commence à la sentir. Dernièrement, la tribune de Genève avait fait toute une carte de d'où proviennent tous les immigrés à Genève. Et par exemple, les immigrés donc, qui ont des papiers en tant qu'immigrés, donc sans les citoyennes suisses d'origine maghrébine, il y a 3000 personnes. Donc moi je trouve que pour une petite ville, et puis bon, on voit aussi au Paki par exemple, notamment, ou à la Jonction, beaucoup plus d'épiceries, beaucoup plus de petits restaurants, beaucoup plus opus, on voit beaucoup plus il commence à y avoir une affirmation de plus en plus de cette nouvelle immigration, moi, ce que j'appelle. Donc, notre groupe, en fait, on commence à sentir les problèmes depuis surtout 2-3 ans, depuis le jour où les services sociaux commencent à nous appeler pour intervenir en tant qu'interprète au niveau de la langue, au niveau de la culture, par rapport à des cas qui se posent à elle et qu'elle n'arrive pas à résoudre. Et parfois, il suffit juste d'un bonjour en arabe pour résoudre et faire la communication entre l'assistante sociale et la personne qui vient demander de l'aide. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y a un problème, qu'on commence à avoir des problèmes de l'immigration féminine d'origine maghrébine ou arabe.
Alors, en tout cas, dans cette journée qui a été organisée samedi, sont venues des intervenantes françaises qui ont peut-être une histoire plus longue de ce côtoiement entre deux cultures, entre autres une représentante du groupe Nana Beur. Et en France, d'après ce qu'elles ont pu nous dire, elles s'affrontent aujourd'hui à un problème très concret, c'est le durcissement de la loi, entre autres ce qu'on appelle les lois Pasqua, qui concrètement va en tout cas vers un durcissement très fort envers les immigrés et particulièrement les Maghrébins.
Alors peut-être juste avant de vous faire écouter des extraits du débat donc qui a été organisé samedi 5 mars, peut-être tu pourrais juste encore nous dire, Sakina, pourquoi tu as choisi les femmes qui étaient présentes, nous présenter juste la palette de femmes qui étaient là, que tu avais invitées, que nos auditrices, au fur et à mesure qu'elles entendront ces voix, sachent où les situer.
Donc nous avons invité trois femmes, deux qu'on connaît très très bien, la troisième moins, mais on a eu beaucoup de plaisir de la connaître parce qu'elle est très intéressante, parce que nous travaillons du fait qu'on ne milite pas seulement quand même à Genève, mais il y a au niveau maghrébin, par exemple en France, il y a une initiative qui a été créée donc, par différentes associations de femmes. L'Europe ne se construira pas sans nous. Donc on a participé à 2 ou 3 réunions avec ces femmes. Et puis ces femmes aussi, c'est des amis, on a créé des liens d'amitié, donc on se connaît beaucoup. Et dans les discussions, dans les rencontres qu'on a eues, on s'est rendu compte, nous, en tant que groupe de Genève, premièrement qu'elles avaient de l'expérience sur le terrain, et elles avaient des réponses aux problèmes qui se posaient. Nous n'avons pas encore de réponses, hein, parce que c'est tout à fait nouveau. Alors, on a invité Saad Benani, groupe des Nana Beur, qui a 10 ans d'expérience, ou 9 ans, comme elle a dit la dernière fois, qui est une femme qui maintenant enseigne le français dans une école en banlieue, qui est philosophe, et qui est la présidente de l'association des Nana Beur. Et ils font vraiment un excellent travail sur le terrain. L'autre groupe est un groupe de Lille, donc, qui est représenté par Nadia. Et Nadia est une femme, par exemple, qui est extraordinaire. Elle a 5 garçons. Vous l'avez vu, on n'aurait pas l'impression. Puis 5 garçons, il faut se les faire, hein, de 13 à 21 ans. Et c'est une femme qui s'est lancée toute seule. Après, ils ont fait un lien avec Nana Beur concernant les mariages forcés et essayer de faire tout un lien de solidarité pour essayer à ce que les femmes ou les jeunes filles qui ont été victimes des mariages forcés, qui ont été amenées au Maroc, en Algérie, en Tunisie, qu'on puisse les faire revenir en France à leur demande, toujours à leur demande bien sûr, et à ce qu'elles réintègrent tous leurs droits d'avant. Et puis Caroline Braque de la Perrière, qui est une femme française, comme elle se dit, pied noir, parce qu'elle n'a pas trouvé, elle a dit je ne rejette pas ce nom parce que je ne trouve pas d'autre nom, qui est née en Algérie, et qui se revendique algérienne, même si elle dit « on n'arrête pas de m'appeler la Romia », et qui a toujours milité, donc, qui a participé à l'écriture, à la réécriture du Code de la famille en Algérie, qui est historienne, qui a écrit un livre sur les bonnes algériennes pendant la période des colons, donc pendant la colonisation en Algérie, et c'est une femme vraiment extraordinaire, et puis qui a vécu, qui a dû, il y a 2 mois, prendre ses bagages et ses enfants et quitter l'Algérie parce qu'elle était menacée. Alors, on trouvait intéressant. C'est grâce au collectif du 8 mars de Lyon, avec qui nous avons des contacts, qui nous a dit, dans le cadre de votre 5 mars, puisque vous voulez parler donc de la lutte des femmes du Maghreb, Il y a juste Caroline, donc elle s'appelle Sakina, donc on l'appelle aussi Sakina en Algérie, qui vient d'arriver, donc toute fraîche, et puis elle peut vous donner des informations, parce que nous-mêmes ici, on ne sait pas ce qui se passe en Algérie, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Puis samedi, quand même, on a eu plus de...
D'informations nouvelles.
Ouais. Nouvelles, exactement.
Alors, tout de suite, nous entendrons les trois personnes, à la fois Souhad, Nadia et Caroline. Nous commençons tout de suite par Souhad, qui donc, comme le disait Viviane, va surtout parler de ces lois Pasqua. Souhad Benani.
En tout ce qui concerne les femmes, je ne vais pas vous faire ici une plateforme sur tous les aspects de la loi Pasqua, mais néanmoins, il y a un problème qui est très important. Pour nous, c'est par exemple la revendication concernant le droit du sol. Jusqu'à présent, jusqu'en juin, juillet, avant la loi Pasqua, tout enfant d'immigré qui était né sur le sol français, à l'âge de 18 ans, pouvait revendiquer la nationalité française et donc l'obtenait automatiquement. Aujourd'hui, la loi Pasqua demande, sous couvert d'une déclaration, en disant « il n'y a pas d'autre, il n'y a rien eu de nouveau ». En fait, au lieu d'imposer une nationalité à un enfant qui est né en France et qui est de parents maghrébins, par exemple, eh bien, on va lui demander de faire un choix volontaire. Il va aller se présenter au commissariat et au tribunal de grande instance et il va faire une déclaration, donc volontaire, comme quoi il veut bien prendre cette nationalité. Alors, ça serait tout simple si, en effet, au lieu d'avoir automatiquement cette carte, il suffisait d'aller faire une déclaration. Or, même sur le principe, de toute façon, ça n'est pas juste, parce que ce sont des enfants qui sont nés, qui ont grandi, qui n'ont pas eu d'autre patrie ni d'autre pays que la France, et que, déjà, c'est difficile d'accepter. Mais par-dessus le marché, du point de vue de la pratique de la loi concernant le droit du sol, il ne s'agit pas simplement de la déclaration de la nationalité, mais d'un ensemble de rouages qui sont mis justement pour que cette nationalité ait énormément de mal à pouvoir être acquise. On met une série d'embâges et de travers, si vous voulez, sur le parcours, ce parcours du combattant pour devenir français. En fait, on veut les meilleurs Français possibles pour les immigrés. Alors, par exemple, concernant l'emploi, bon, tant qu'on est scolarisé, un enfant scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans peut aller demander la nationalité française, mais imaginez-vous, par exemple, qu'en France, nous avons 3 millions de chômeurs, si ce n'est plus, et Balladur nous promet que dans 2 ans, la situation sera assainie, qu'on sort de la crise. Ma foi, il faut encore attendre. Mais en attendant, cette situation continue à s'aggraver. Et si cet enfant, cette jeune fille ou ce jeune homme veut demander la nationalité française, qu'il n'est plus scolarisé, qu'il n'a pas d'emploi, il ne peut pas prétendre à la nationalité française. C'est un exemple parmi d'autres, c'est-à-dire que dans la loi, effectivement, il faut pouvoir justifier de bulletins de salaire, de bulletins de paye, pour montrer justement qu'il y a une intégration économique avant d'avoir une intégration, si vous voulez, sociale. C'est quelque chose qui est totalement aberrant, puisqu'on sait que la France est traversée par la crise du chômage et que c'est difficile de demander à des populations qui sont déjà discriminées de pouvoir être mieux placées que des Français qui ont eu la possibilité, et qui ne l'ont pas toujours d'ailleurs, d'obtenir un emploi. Ceci pour vous expliquer, pour vous éclairer un petit peu sur le fait que ça n'est pas si automatique que cela et qu'au contraire, il y a beaucoup de problèmes. D'autre part, si un jeune ou une jeune, par exemple, a eu le malheur d'obtenir, d'avoir eu je ne sais quel problème et d'avoir été délinquant, d'avoir eu une arrestation, par exemple, lors d'une manifestation, qu'il y ait eu un casier judiciaire, etc., etc., s'il y a un casier judiciaire qui n'est pas vierge, la nationalité est également refusée. Il y a, je pourrais vous citer, dans le débat peut-être, une série de choses qui montrent que ça n'est pas possible et que ça n'est pratiquement pas possible, effectivement, d'obtenir automatiquement cette nationalité par simple déclaration, parce qu'il y a une série de points très concrets et que seule la pratique aujourd'hui nous révèle, parce que c'est vrai que quand vous avez la loi bien enveloppée, etc., que vous avez des discours, un ensemble de discours politiques sur ce point, et qu'il y a l'unanimité en disant « mais il n'y a pas de problème », S'il y a justement ces lois, c'est pour permettre une meilleure intégration et que ces lois-là sont faites uniquement pour chasser les clandestins, parce que les clandestins, c'est un gros problème, pour eux, j'entends. Eh bien, ce n'est pas vrai, c'est la pratique qui nous démontre qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut pouvoir combattre. D'autre part, il y a par exemple les mariages mixtes, et l'on sait que depuis 1974, les frontières françaises sont fermées par rapport à l'immigration, et que pour la plupart du temps, il est difficile d'obtenir des papiers en France, et c'est devenu encore plus difficile aujourd'hui. Et que c'est vrai qu'il y a des mariages blancs, comme partout en Europe, mais c'est la dernière porte de secours. Mais il y a aussi des mariages d'amour, des mariages volontaires, des mariages entre citoyens et français et d'autres qui sont d'origine étrangère, et que cela, en aucun cas, nous ne pouvons nous permettre de le mettre sous forme d'une loi en mettant la suspicion sous tout mariage qui présente une mixité au niveau de la nationalité. Et que donc, pour aux yeux de la loi, tout mariage mixte est un mariage suspect et que ça demande des enquêtes, que le maire peut refuser. Bon, là, ça a été... il y a eu une reculade politique là-dessus, mais que, bon, on a assisté en juin à des refus de maire de marier des gens qui se présentaient en disant « Mais non, ça ne va pas, où est votre carte de séjour, etc. » alors que c'est un droit de n'importe quel citoyen de la Terre de pouvoir se marier avec n'importe qui, et que ça, en France, maintenant, ça devient très suspect et qu'il y a énormément d'enquêtes. Ce qui est encore plus grave, c'est que la loi peut se permettre, même par rapport aux mariages qui ont été déjà établis, de revenir sur les cartes de résidents qui ont été données, au cas où, par exemple, le mariage s'avérerait être un mariage blanc et qu'on peut tout bêtement supprimer la carte de résident du conjoint qui a été suspecté de mariage blanc. Bien, ça c'était pour vous donner aussi un aspect sur cette question-là. Il y a aussi le problème de la polygamie en France qui a été interdite. Moi je dis heureusement, de toute manière, nous ne sommes pas en tant que femmes maghrébines ou autres d'accord pour la polygamie parce que c'est un vieux reliquat patriarcal qui plonge les femmes dans la discrimination et dans l'oppression la plus totale, et que c'est vrai, c'est quelque chose de tout à fait inadmissible et qu'il faut pouvoir combattre. La loi ne prend pas la polygamie sous cet aspect-là. La loi combat la polygamie parce que la polygamie permet de faire entrer une ou deux femmes, même quatre, puisque la loi musulmane permet quatre femmes, et que ça signifie qu'on a encore des cartes de résidents à pouvoir donner, et donc une augmentation de l'immigration, etc., etc., et que là, ça pose de graves problèmes, parce que bon, la polygamie, en général en France, touche énormément les familles africaines plus que les familles arabes. Et que donc, maintenant, si les familles africaines, on renvoie, avec un arbitraire total, les autres femmes qui sont arrivées, on leur supprime les cartes de résident, elles n'ont pas le droit d'avoir une carte de sécurité sociale, donc ça veut dire elles n'ont pas le droit à la santé, elles n'ont pas le droit à l'éducation, etc., etc., et que bon, ça pose d'énormes problèmes sociaux et moraux concernant ces familles, et qu'il faut pouvoir débattre de cette question avec justement les associations de femmes concernées et avec bon, une partie de l'opinion publique et de la société civile. Ça, ce sont les problèmes les plus criants, si vous voulez, et les plus durs au vécu, par rapport au vécu des femmes. Il y a aussi le problème de la sécurité sociale sur lequel les lois Pasqua permettent à la sécurité sociale aujourd'hui de pouvoir consulter les fichiers de la police pour voir si les gens qui sont affiliés à la sécurité sociale sont bien installés régulièrement en France, donc avec des cartes en bonne et due forme, et qu'ils ne sont pas bon, des clandestins ou avec des cartes de je ne sais quoi, et que ça c'est vraiment aussi quelque chose d'extrêmement dramatique et très difficile à pouvoir accepter. Thank you.
Ça, c'est Férousse, et comme vient de le dire Sakina, c'est ta préférée, Sakina. À présent de nous voir, pourquoi tu aimes tant Férousse?
C'est la meilleure.
C'est la meilleure. Alors, on propose de vous la faire écouter encore un petit moment, histoire de laisser une pause musicale un tout petit peu plus longue.